Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Bonsoir chers auditeurs, vous êtes de retour dans cette émission Restons Courtois sur les ondes de Valeurs Actuelles, présentée sur les ondes de Radio Courtoisie, ah oui, quatrième fois, je ne suis pas arrivé, diffusée par Radio Courtoisie, comme tous les jeudis présentée par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault de Valeurs Actuelles, je suis avec Laurent Dandrieu et Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Étienne Darzac qui a plein de qualités même s'il n'est pas de Valeurs Actuelles, et Frédéric Hermel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde.
Vous publiez aux éditions Fayard ce livre absolument passionnant, c'est ça la foi, j'espère qu'on le voit bien à l'image. Un livre dans lequel finalement vous parlez de votre rapport à la foi, votre rapport au catholicisme, vous qui avez une carrière assez riche, vous avez été très longtemps correspondant à Madrid, vous êtes un spécialiste, on va dire reconnu du football, et vous avez ça, cette espèce de trésor que vous avez au fond de vous, ce catholicisme qui vous habite. La raison la question la plus simple du monde, celle qu'on s'empêche de poser, parce qu'elle est extrêmement bateau, mais quelle est la raison qui vous a poussé à écrire ce livre, Frédéric Hermel?
La très bonne idée de Lise Boël, la patronne de Fayard. Voilà, c'est une très bonne raison pour faire un livre. Alors pour vous dire la vérité, j'ai écrit plusieurs livres, et j'avais notamment fait un roman chez Fayard il y a 2 ans et demi.
Absolument.
Et j'étais allé voir Lise Boël en disant, voilà, j'aimerais vous proposer un nouveau roman. Elle m'a dit, on va pas faire le roman tout de suite, on va faire un livre qui va s'appeler C'est ça la foi. Parce qu'elle m'a dit, à l'époque on se voyait, vous êtes l'un des rares journaliste, personnage des médias, a exprimé clairement votre foi catholique à l'antenne, et ça c'est rare, c'est important, donc voilà, je vous propose de faire ce livre qui est en résonance avec un livre que j'avais fait en 2021 quand j'étais encore à Madrid, qui s'appelait C'est ça la France, qui était, je faisais une déclaration d'amour à la France, et là cette fois-ci je fais une déclaration d'amour à la foi. Et c'est ce qu'il y a de génial avec les grands éditeurs, éditrices comme Lise Boël, c'est que c'est le livre le plus important pour moi. Je n'y avais pas pensé, il était en moi, elle est allée chercher en moi ce que je devais dire, et je suis très 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 heureux d'avoir fait ce livre.
Parce que ça relève à la fois de l'intime, mais en même temps c'est quelque chose dont vous ne vous cachez pas, que vous proclamez d'ailleurs. On lit, mais sur votre compte X, votre compte Twitter, il y a un verset de la Bible.
De Saint Matthieu.
De Saint Matthieu, absolument. Enfin, c'est quelque chose dont vous ne faites pas mystère publiquement.
Ça, j'ai eu ça parce que j'ai eu un problème de santé en 2017, à cause d'un calcul rénal, mais ça s'était transformé en bactérie multirésistante.
Enfin, bref, c'était
un truc, mais vraiment un truc pas beau. Et j'étais dans les attentes de résultats, et je devais être piqué tous les jours, bon, bref, et je vais à la messe dans mon petit village, l'église à côté de mon du village à côté de mon petit village, parce que vous savez, dans les petits villages du Pas-de-Calais, il y a plus de messe tous les dimanches, donc en fait il y a une sorte de pèlerinage que font les paroissiens à 20
autour
30
kilomètres
voilà, pour aller chercher à la messe, et j'étais allé avec ma tante et j'étais très inquiet, c'est la première fois où j'étais vraiment malade. Et ce jour-là, dans l'évangile, c'était « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Voyez, j'ai des larmes qui montent quand j'en parle. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, non, je vais guérir. Et quelques jours après, arrive le résultat, et la saloperie de bactéries était partie. Donc, j'ai sur mon X, sur Twitter, Fred Hermet, j'ai gardé depuis ce jour-là, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je regarde quand parfois je m'inquiète et que peut-être je sens pas Dieu présent je le sens pas assez près, je dis Fred, n'oublie pas, homme de peu de foi.
Voilà. C'est une très belle devise en tout cas, c'est une très belle maxime de vie. Laurent Dandrieu, vous avez lu avec beaucoup d'attention.
Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'émotion. C'est un très beau témoignage, à la fois effectivement intimiste, mais qui dépasse de très loin votre cas personnel. Je l'ai lu, vous me direz si c'est juste, Fred, comme un témoignage de double gratitude, de gratitude vis-à-vis de ce Dieu qui vous a tendu la main presque physiquement, concrètement, pour vous sortir du marasme où vous avez plongé la mort de votre père quand vous aviez 13 ans. ans. Et je dirais aussi témoignage de gratitude vis-à-vis de votre grand-mère, qui a été une passeuse de foi.
Ben c'est exactement ça. Commençons par la citation. Enfin, je dédie ce livre à Mamie Empoisse, qui était Mamie Empoisse, c'est comme ça que je l'appelais, parce que je suis le premier petit-fils, et elle s'appelait Françoise, et je n'arrivais pas à dire Françoise, José Empoisse, et c'est resté, et tout le monde encore, elle est morte en 2007, on dit
ça
encore Mamie Empoisse.
Ça beaucoup de familles, je pense.
Mais bien sûr, mais voilà, mais en fait, c'est un récit intime, mais je suis le portrait robot du petit chrétien catho, d'un petit village de la France des années 70, où naturellement on se faisait baptiser, naturellement on allait au cathé, naturellement on faisait sa communion, et naturellement on était enfant de cœur quand on était un garçon, donc en fait, c'est intime, mais tout le monde va s'y reconnaître, parce que je suis pas du tout original, hein. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment pas un chrétien original. Je suis un chrétien de, j'allais dire, en espagnol, on appelle ça des toda la vida, de toute la vie, en fait. Comme sont l'immense majorité des chrétiens dans ce pays. Donc oui, j'ai dédié ce livre à ma grand-mère, qui était à peine lettrée. C'était une petite paysanne qui ne parlait pas le français, qui parlait le picard, le ch'ti. Et voilà. Et qui ne comprenait pas les mots qu'elle disait à Dieu. Dans les prières, elle récitait les prières, mais elle ne les comprenait pas.
Mais ça s'imprime quand même.
Mais ça s'imprime. Mais non, mais elle était bien meilleure chrétienne que moi. Hein, donc, mais voilà, donc c'est elle. Ce livre est dédié à Mamie Empoisse, celle qui m'a transmis la foi. Et puis la rencontre avec Dieu. Oui, alors il est écrit dans l'Évangile, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi, j'ai pas de mérite. J'ai vu Dieu. J'ai vu la main de Dieu me sortir du trou quand j'ai 14 ans, ça fait un an après la mort de mon père, et je suis vraiment perdu, et je suis dans une famille engloutie par le deuil. Ma sœur a vu mourir notre père, elle avait 10 ans, mon père avait 37 ans, voilà. Ma mère se retrouve au chômage 6 mois après, donc c'était vraiment pas gai. Et là, j'avais des résultats scolaires qui étaient catastrophiques, moi qui étais un très bon élève. Là, je suis en deuxième trimestre de ma deuxième, troisième. Et là, on peut pas m'envoyer au lycée, quoi. Et moi qui suis, pas habile du tout de mes mains, on veut m'envoyer en CAP, et où j'aurais été malheureux parce que je ne savais pas me servir de mes mains. Et puis, le miracle se produit, la rencontre avec Dieu, Dieu qui me... un songe, un soir, enfin une nuit, et puis la sortie de ce marasme, et puis l'entrée au lycée, et après pouvoir reprendre le cours de la vie, en fait. Et c'était ce cadeau de Dieu, il fallait remercier Dieu d'une manière ou d'une autre, et c'est Lise Boël, la patronne de Fayard, qui m'a donné l'occasion d'écrire ce livre, et j'en suis très très heureux.
Vous dites vous n'avez pas de mérite, mais en même temps vous avez une qualité qui vous a permis de remercier Dieu, c'est que vous avez une capacité qu'on voit vraiment dans votre lit à repérer les signes de Dieu partout dans votre vie. Vous passez votre temps à voir la main de Dieu dans tous les petits événements de la vie. Ça, c'est un don que tout le monde n'a pas.
C'est un vrai cadeau. Alors, je suis une personne ultra sensible, hein, donc je suis donc sensible à beaucoup d'émotions, mais à reconnaître les signes. Et c'est vrai que je vois les messages de Dieu régulièrement. Mais je pense qu'il suffit de se laisser aller, de laisser la raison par moi et la logique un peu de côté. De laisser même le cerveau, hein, et de laisser son cœur parler.
Chasser la coïncidence, quoi.
Ouais, voilà. Je pense que quand on est prêt, on arrive à décoder ces signes et de pouvoir remercier Dieu. Moi, je remercie Dieu plusieurs fois dans la journée, parce que après la prière, etc. Et par exemple, le chapelet de Lourdes à 15h30 qu'on peut faire, il se passe toujours un truc bien après quand je fais le chapelet. Alors, je peux pas le faire tous les jours, mais quand je le fais, il y a toujours une bonne nouvelle qui arrive derrière. C'est pas de la magie, hein, c'est Dieu, quoi. Voilà, quand on demande, demandez et vous obtiendrez, hein.
Et d'ailleurs, parmi les signes, puisque vous parliez de votre grand-mère, la mort de cette grand-mère intervient précisément au moment où vous étiez en train de faire un retour vers la foi après des éloignements durant vos années madrilènes. Elle a été l'occasion, la mort de cette grand-mère, d'un signe aussi que vous avez reçu.
Ah, c'est l'aéroport, vous voulez dire. Voilà. Ouais, oui, alors ça, je le raconte. Enfin. Oui, physiquement. C'est-à-dire que ma grand-mère avait 87 ans. Hein, c'était un âge normal pour mourir. Sauf que ma grand-mère m'a élevé. Donc, c'était un peu plus que ma grand-mère. Donc, je suis à Madrid. Je travaille à Madrid comme correspondant d'RMC de l'équipe à l'époque. Je suis toujours RMC aujourd'hui. Et ma sœur m'appelle un mercredi soir en 2007, au mois de mars, en me disant: c'est la fin, il faut que tu reviennes, quoi. C'est pour les prochaines heures. Et voilà. Et je prends l'avion, le premier avion d'Air France, très tôt le lendemain matin. Je n'ai pas de nouvelles. Et à un moment, je suis dans l'aérogare et dans la salle d'attente, et là, je sens une douleur incroyable dans le bas-ventre, comme si on m'arrachait les entrailles. Et je lève les yeux, je vois une horloge. Il est 7h30, parce que je voulais savoir si j'avais le temps de passer aux toilettes, m'asperger un peu d'eau, parce que la douleur m'avait fait transpirer. Et là, je vois 7h30 pile. Je monte dans l'avion, j'atterris à Roissy, j'ouvre mon téléphone portable, je n'ai pas de message, j'appelle ma sœur, elle me dit « Mamie est partie ». Là, je tombe à genoux sur la moquette de l'aéroport, j'hurle comme une bête. Là, il n'y a plus aucune pudeur, hein. Mais il y a plein de gens autour, mais là, le truc. Et je lui dis « Mais à quelle heure ?» Et elle me dit « À 7h30 ».
C'est incroyable.
Et ça s'invente pas, je veux dire. Ouais. Et ça, je le racontais autour de moi à mes amis. Mais je pense que j'avais envie de partager ça. Et un livre permet de partager ça. Et en fait, mais je suis pas original du tout, hein. Parce que ça, plein de gens ont vécu des choses comme ça. Parce que, et le message, et en fait, ma peine a été pas amoindrie, mais a été un peu contrôlé par ça, c'est-à-dire été voilà en disant voilà il y a un message de Dieu quoi.
Oui. Ça donne un sens.
Ça a un sens voilà.
De la peine, quoi.
Et la mort aussi. Enfin, moi j'étais dans une période où pendant une quinzaine d'années j'étais toujours catholique etc. Mais bon, j'étais un peu dans l'obscurité de la foi. Même Mère Teresa ou des docteurs de l'Église ont perdu la foi ou ont eu des doutes sur la foi. Donc il y a un chapitre dans ce livre, c'est ça la foi, qui s'appelle La beauté du doute, où quand on est chrétien, on a des moments de doute et c'est normal. Et donc un voyage en Terre Sainte et la mort de ma grand-mère m'ont aidé à rallumer cette flamme qui est aujourd'hui est la plus puissante que jamais, là, oui, surtout après ce livre.
Victor Hérault, vous avez une question pour Frédéric.
Oui, Frédéric Hermel, alors nos auditeurs sentent sûrement l'émotion dans votre voix, comme nous la voyons dans ce studio. J'aimerais, pour introduire ma question, vous faire part de mon expérience, parce qu'elle est assez similaire à la vôtre. C'est-à-dire, moi je l'ai perdu, mon père, effectivement, à 17 ans, lui en avait 45. Simplement, à cette différence près, que j'ai l'expérience totalement inverse, le réflexe totalement inverse, c'est-à-dire que, ne m'en veuillez pas, ça m'a... D'abord, j'ai ressenti une rage envers Dieu incroyable, une rage qui s'est transformée en coupure et qui, au fil de ma vie, a repris. Et j'ai repris ma vie sans Dieu à partir de là. Je suis encore assez croyant d'une façon assez différente, mais j'étais servant de messe, j'ai fait voilà, tout le parcours classique. Et je n'ai pas, fait l'expérience que vous racontez, que je crois intégralement, cette expérience de la main tendue de Dieu. Et je voulais savoir ce que vous diriez à moi, mais comme à mon avis, peut-être à nos auditeurs ou à certains qui peuvent se reconnaître dans mon expérience à moi, qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui n'a pas eu le sentiment d'avoir reçu cette main de Dieu ou au contraire d'avoir peut-être lâché cette main de Dieu?
Vous parlez comme ma mère.
Carmel.
Ah. Parce que ma mère était vendait le pèlerin quand elle était jeune. Elle portait des bannières aux processions. Sauf que le rapport, quand à 37 ans, tu te retrouves veuve, que tu perds ton travail 6 mois après, que tu as 2 petits enfants avec toi, le rapport avec Dieu, il est compliqué. Donc ma mère a du mal à aller dans les églises, quoi. Elle a beaucoup aimé ce livre. Ouais. Tous mes livres, c'est ce livre qu'elle a le plus aimé. Et elle m'a dit, ah, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Je pense que ça l'a aidé un petit peu.
Ça lui était peut-être un peu agressif aussi.
D'ailleurs, je serais heureux de vous offrir le livre que, voilà.
Avec un immense plaisir.
Parce que si vous pouvez retrouver ce chemin. Et ce livre, je l'ai fait aussi pour ma mère et pour ma sœur aussi, qui, voilà, c'est. Après, il faut avoir quelqu'un qui prie pour vous aussi. Dans la famille, c'est moi qui prie. Depuis qu'il n'y a plus ma grand-mère, c'est moi qui prie pour ma mère et ma sœur. Voilà, je suis le représentant officiel auprès du Seigneur. Voilà, c'est une charge très lourde.
J'imagine.
C'est une charge noble. En
tout cas. Noble, voilà. Donc voilà, Fred s'en occupe. Ça, cette partie-là, c'est pour Fred. Donc, mais voilà, mais je vous comprends parfaitement, Victor, parce que ma mère a vécu ça. Donc, elle n'est pas éloignée de Dieu. Elle est toujours un petit peu en colère, quoi. Oui. Mais j'espère que ce livre, en le lisant, va vous rassurer, parce que si vous voyez la quatrième de couverture. À toi qui crois, à toi qui ne crois plus, à toi qui voudrais croire. Ça, c'est une formule que j'ai trouvée très rapidement.
Autour de cette table, c'est ça.
Voilà, c'est un livre pour ceux qui croient fermement, qui n'ont aucun doute au moment où on parle, ceux qui n'y croient plus, ceux qui aimeraient croire. Enfin, c'est un livre pour tout le monde. Et puis, c'est aussi un livre sur notre culture à nous en tant que Français. C'est-à-dire que il y a quelque chose. Je dis que je suis un petit pèlerin à la feuille de papier. C'est-à-dire, comme j'ai la chance de pouvoir écrire un livre dans une grande maison d'édition, et que je sais aligner deux, trois mots correctement, c'est mon devoir de témoigner en tant que chrétien. Et j'ai envie que les gens qui ne se sentent pas chrétiens, après avoir lu ce livre, se disent « Ouais, mais en fait, je suis catho, quoi. » Ben oui, parce que...
Ça se ressent,
en fait. Ben, ça se ressent, parce que... On a tous une grand-mère qui nous a offert un Saint-Christophe pour la première voiture, pour nous protéger. On a tous une grand-mère qui aimait aller mettre une bougie à Saint-Rita. Alors, dans la famille, on est très Saint-Antoine de Padoue. Ça, c'est vraiment notre
parce
référé.
Vous passez votre temps à perdre des choses.
Oui. Non, je perds mon temps à essayer de les retrouver.
J'écris
des livres que vous voulez. Mais c'est quelque chose de super important. Et ce livre, il est là. Fondamentalement, on est chrétien et même les gens qui ont été baptisés, mais qui n'ont, ou même ceux qui n'ont pas été baptisés parce que leurs parents disaient, il va choisir tout seul. Ouais, oui, ça c'est, je trouve que c'est une fumisterie, ça. Je pense que voilà, pardonnez-moi,
on est
si c'est votre cas. Mais et donc, en fait, des gens sont baptisés ou pas baptisés, et ils se disent, mais non, je suis pas catho du tout. Oui, mais sauf que après avoir lu mon livre, ils vont se dire, ah oui, tel truc, ah bah oui, ça c'est catho. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans mon livre.
Dit-il avec sa statistique qui lui est coutumière.
Mais oui, mais ça, je rends compte.
S'il y en a qu'un seul, ça va.
Voilà. Non, c'est un chapitre sur les expressions, en fait. Ça s'appelle Dieu sur le bout de la langue. En fait, tous les jours, n'importe quel Français cite l'Évangile, sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a des tonnes d'expressions qui sont directement tirées de l'Évangile et que la majorité des gens ne savent pas d'où ils viennent.
Les talents, par exemple, moi ça m'a toujours surpris. Pardon ? Ça. Les talents, la parabole des talents, justement le talent au sens qu'on entend aujourd'hui.
Même les Jérémias, par exemple, les Jérémias de
la première pierre.
La première pierre, pleurer comme une Madeleine. Bah, pleurer comme une Madeleine, c'est Marie, Marie-Madeleine, donc qui lave les pieds du Christ avec ses larmes, quoi, voilà. Et en fait, on ne peut pas se défaire. Même quand on est contre, on ne peut pas se défaire. Puis là, il y a Noël qui va arriver. J'ai fait un chapitre qui s'appelle Touche pas Noël.
Que vous aimez aussi beaucoup.
Non, parce que c'est le plus revendicatif. C'est là où je suis peut-être le plus tonique. C'est un ouvrage,
on va dire.
C'est très tendre. Mais là, je suis un peu plus, avec des mots un peu plus durs, parce que je ne supporte pas ces gens qui, par exemple, ces profs qui veulent les vacances de fin d'année, mais arrêtez. Mais attends, mais tu vas fêter Noël avec tes enfants quand même, hein. Même ceux qui nous disent, non, moi je suis laïque, je vais, pas de crèche, pas tout ça. Mais il y aura un sapin et il y aura des cadeaux à Noël et puis ils vont inviter leurs parents et tout ça.
Et ils veulent surtout la prime qui va avec.
C'est-à-dire, donc, ils sont chrétiens, même sans le savoir. C'est comme, je dis dans le livre, c'est comme M. Jourdain qui faisait de l'apro sans savoir, la plupart des enfants sont cadeaux sans savoir.
Justement, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'il y a ce double aspect, c'est-à-dire que, effectivement, dans votre cas, particulièrement, la foi, c'est une rencontre personnelle avec Dieu qui vous a tendu la main, mais c'est aussi quelque chose de très communautaire, parce qu'effectivement, on est tous réunis dans cette même foi, mais aussi qui nous rattache à notre histoire. Et vous écrivez, d'ailleurs, je suis français parce que Clovis a été baptisé. Je suis catholique parce que Clovis a été baptisé.
Mais c'est la vérité. La nation française naît à Reims, l'an 498-500. Voilà, et la première fois que je suis allé à la cathédrale de Reims, où j'ai vu cette dalle, où ici, Saint-Rémy a baptisé Clovis,
ça fait quelque chose.
Et ben voilà, je dis dans le livre, certains pays sont nés d'une guerre, d'autres d'un découpage administratif, certains par hasard. Le mien est né d'un baptême, mais c'est la réalité. Donc la France est née du baptême de Clovis. Donc on peut pas plus catho que ça, les enfants. Hein, non, pas plus chrétien, parce qu'à l'époque c'était
Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, dans l'émission Restons Courtois, cette fois j'y suis parvenu, présenté par Marc Hedo de Valeurs Actuelles, je suis avec Laurent Dondrieux de Valeurs Actuelles, Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Étienne Darjac, éditorialiste, et Frédéric Hermel, auteur de ce magnifique ouvrage, c'est ça la foi, aux éditions Fayard. Je crois que Étienne Darjac avait une question pour vous, Frédéric Hermel.
Absolument. D'abord, je fais une toute petite incise, parce que je m'en voudrais de pas le dire, je suis un très grand fan de foot, et un auditeur de l'After depuis 10 ou 15 ans.
D'accord.
Donc je suis très très honoré, très content de partager un peu le micro avec vous rapidement.
Plaisir partagé. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes plutôt réel que Barça quand même.
Je suis beaucoup plus réel que Barça. Je suis pour Lyon à la base, donc
on peut parler. Voilà. On l'avait prévenu.
Et je ne supporte pas Barcelone, donc c'est parfait.
Ah bah c'est parfait. Excusez-nous pour les supporters de Barcelone. Vous pouvez quand même acheter mon livre, parce qu'il y a un chapitre sur la Sagrada Familia. Il y a un très beau chapitre sur la Sagrada Familia.
Bien sûr. Alors simplement, je précise à mes auditeurs, effectivement, vous pouvez évidemment intervenir dans cette émission au 01 46 06 51 00 85 ou sur courtoisie@rc.fr. Si vous avez des questions pour un de mes intervenants ou pour Frédéric Hermel, n'hésitez pas. Étienne Darzac, je vous rends la parole.
Ma question était justement liée à vos années en Espagne, à vos longues années en Espagne. J'ai l'impression, pour vous écouter depuis longtemps, que ce retour un peu à la foi, il est arrivé un peu en même temps qu'un retour à la France, et qu'il a quelque chose de lié à votre retour en France. D'abord par le livre, puis par votre... Je crois que vous êtes de nouveau installé en France maintenant.
Oui, depuis 4 ans.
Et ce que j'allais dire, c'est, ça m'étonnait presque un peu, parce qu'on sait que la société espagnole est beaucoup plus restée catholique que la société française. C'est un facteur identitaire beaucoup plus important. Il n'y a pas eu la sécularisation très violente qu'on a connue en France. Et je trouvais ça presque paradoxal qu'en revenant en France, dans ce pays très séculaire, où on a vu encore une enquête d'opinion très récente, où malgré tout, malgré peut-être un petit retour de flamme, le catholicisme s'effondre quand même, je trouvais paradoxal cette façon d'aller à contre-flot, et je voulais vous entendre là-dessus.
J'adore aller à contre-flot, même si je ne sais pas nager. Non, en fait, il y a 15 ans, je me suis confirmé à 40 ans.
D'accord.
À 40 ans. Parce que moi, je suis d'une période dans les années 80 où on se faisait pas beaucoup confirmer. Puis moi, je viens d'un petit village. Moi, j'étais parti à la fac et tout. Enfin, tu vois, c'était un peu plus compliqué. Et puis c'était moins. Maintenant, on avait perdu un peu l'habitude dans ces années-là. C'était passé de mode. Et donc, avec mon retour de flamme religieux il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu sanctifier cela par la confirmation que j'ai faite à Saint-Louis des Français, qui est la paroisse française
De
Madrid. Voilà. Mais il y a une chose, et votre question est loin d'être idiote.
Merci.
La question aussi, c'est que...
On va recevoir 50 messages d'auditeurs pour dire c'est complètement faux.
C'est que, en fait, le retour en France et mon installation à Paris il y a 4 ans, me permet d'être dans la beauté des églises parisiennes.
Ah oui.
Et ça aide.
Qui sont plus belles que les églises madrilènes?
C'est-à-dire, non, parce que j'allais à celui-là. Parce qu'en fait, moi, j'allais à la messe en français, donc c'est Saint-Louis des Français, et elle est vraiment moche.
Ah oui.
Saint-Louis des Français à Rome, c'est une merveille. À Madrid, c'est une espèce de rez-de-chaussée d'immeuble. Donc c'est vraiment
Ne vous trompez pas, Saint-Louis des Français, chers auditeurs.
Ah oui, non, c'est vraiment pas terrible. J'ai beaucoup aimé y aller, etc. Mais quand j'arrive ici, que je vais à Saint-Clotilde, moi je suis paroissien de Saint-Clotilde, de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dans le 15e, Saint-Clotilde. Voilà, enfin, tout ça participe, la beauté, et c'est pourquoi je me sens profondément catholique. C'est-à-dire que la beauté, des vitraux, par exemple. Il y a un chapitre que je fais sur les vitraux de Chagall à Reims. Mais j'en étais presque malade de bonheur, en fait, de la première fois où j'ai vu les vitraux de Chagall à Reims. C'est une expérience exceptionnelle. Quand on est dans la cathédrale, qu'on découvre la plaque avec le Saint-Rémy qui a baptisé
Clovis.
Et puis vous arrivez au fond de la cathédrale et vous avez ces vitraux qui sont exceptionnels. Voilà, la beauté des... C'est pourquoi j'aime l'art, religieux aussi, j'aime tout. J'aime les bondieuseries aussi, par exemple, même clinquantes, etc. Parce que tout ça participe à notre rapport à Dieu.
Justement, à propos de la bondieuserie, il y a un aspect très intéressant de votre livre, c'est cette défense très fière que vous faites du catholicisme populaire. Vous êtes très fier de vos origines populaires et vous défendez aussi une foi qui est une foi du charbonnier. Vous parliez de votre grand-mère qui était une excellente chrétienne tout en comprenant pas forcément tout à fait les prières qu'elle récitait. Et c'est vrai que ça fait du bien de lire ça parce que on a l'impression que le catholicisme français s'était un peu engoncé dans son embourgeoisement qui était à deux doigts de le faire crever.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Charles Henry. Bien sûr. Moi, en fait, pour moi, la foi, c'est le petit garçon qui lisait à la messe à 7 ans. C'est un livre de Frédéric Hermel, mais c'est le livre du petit Fred, en fait. Vraiment. Et si je suis un homme de radio aujourd'hui, c'est parce qu'à 7 ans, on va dire « Fred, tu lis bien, t'as une belle voix ». Et j'ai lu des années et des années, vous savez, la première lecture, deuxième lecture, avec mon ami Corinne, qui est toujours mon ami. On est amis depuis qu'on s'est...
Tous les chemins mènent à Zidane.
Alors, je parle de Zidane dans ce livre.
Oui, bien sûr.
C'est votre chapitre préféré, d'ailleurs.
Pour raison très simple, je parle de Zidane parce qu'en fait, je raconte comment, quand il se qualifie en tant qu'entraîneur pour sa première Ligue des Champions en 2016, je veux une interview avec lui. Il me dit, je peux pas, je parle à personne, je peux pas te parler, mais viens, on va faire du off. C'est ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire, voilà. Donc un soir, tard, il n'y a plus personne au centre d'entraînement du Real, il m'invite à aller le rejoindre. Et là, on parle pendant une heure en off, etc. Et j'ai...
Alors le off pour les auditeurs, oui, ce sont des conversations confidentielles entre le journaliste et la personne interrogée.
Mais sans qu'on utilise citer les sources,
voilà, vraiment, ouais, voilà. C'est ça.
Pardonnez-moi.
C'est le fameux un membre de l'entourage de.
Voilà.
C'est les petites astuces.
Et donc, je lui avais ramené un cierge que j'avais fait brûler sur le tombeau du Christ à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Et je lui dis voilà, Jérusalem est la ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ce cierge te portera chance. Il est très ému. 10 jours après, il y a la finale. Ça se joue à Milan. 2 ou 3 heures avant la finale, on imagine qu'il a 2-3 trucs à penser. Il m'envoie une photo. Il avait du cierge. Il avait emmené avec lui le cierge à Milan.
Mmh, c'est beau.
Ce qui fait que l'année d'après, il se requalifie pour la finale. Oui. Mais bien sûr, il gagne. Hein.
Oui. il perd 6-0.
Et après, il bloque. Et là, il me dit, faut que tu reviennes et tout. Donc, je lui offre un nouveau cierge. Il regagne. Il se requalifie une troisième fois. Ouais. Donc, il a eu le droit à trois finales, 3 cierges et 3 victoires.
Vous êtes jamais... C'est grâce à vous, en fait, que le Real Madrid...
C'est pas grâce à moi, mais champion. J'ai rassuré un peu auprès du Seigneur pour que Zizou gagne.
En tout cas, s'il devient entraîneur de l'équipe de France, on sait ce qu'il reste à faire pour qu'on redevienne champion du monde.
Mais c'est très drôle que vous disiez ça, mais j'y ai pensé. Bien entendu, la France sera en finale de la Coupe du Monde avec Zidane, et bien entendu, il faudra que je retourne à Jérusalem.
Bah oui.
Si Dieu le veut, j'irai en Terre Sainte au mois de janvier.
Ah, si c'est avec Zidane, c'est en 2030, du coup.
Et la finale, elle risque d'être à Madrid.
C'est vrai.
Ouais. La baie, oui.
Ah,
donc voilà, tout est. Cher Étienne, tout est en train d'être prévu, ne vous inquiétez pas. On vous tiendra au courant.
Les planètes sont prévues. Ça, c'est une théorie du complot qui me plaît. Ça.
Cette fois, vous savez, qui est absolument débordante, je le dis ça dans le meilleur des sens, qui est très rare dans notre milieu. Est-ce qu'elle vous a déjà porté préjudice?
Pas vraiment. Si, ou sur les réseaux, on me dit « Ah, mais tiens, pour un chrétien, comment tu peux dire ça, quoi ?»
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Que, en fait, comme je suis ouvertement catholique, je n'ai pas le droit au moindre écart de langage,
etc. La morale,
il faudrait que je sois un saint, non.
De vitrail.
Justement,
je
ne suis pas un saint, justement. Et ce livre le dit bien. C'est pour ça, c'est un livre qui est assez rassurant, en fait, si vous péchez, parce que c'est aussi le livre d'un pécheur.
Et pour prolonger un peu la question de Victor, moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans votre livre, c'est, vous êtes parti en Espagne, vous avez eu une carrière, une excellente carrière, vous avez côtoyé tout le gratin, on va dire, de la société madrilène.
Vous
avez fréquenté des princes. Vous vous êtes un peu perdu vous-même, enfin, vous êtes un petit peu aveuglé vous-même aussi dans les projecteurs, dans...
Oui, alors pas totalement, mais un petit peu, oui, parce que c'est quand on est jeune et que, vous savez, quand vous faites je faisais un programme qui était hyper connu en Espagne de foot à la télé, mais les flics s'arrêtaient dans la rue pour me remercier de défendre, parce que
vous étiez une célébrité,
voilà, j'allais dans les restos, j'avais toujours une bonne table, etc., donc, j'ai jamais dévié parce que j'ai toujours pris ça avec vous, mais il y avait le risque de prendre un peu le boulard, et dans ces cas-là, Dieu, il sait très bien vous rappeler à l'ordre.
Vous anticipez la question, non, mais c'est un peu ça l'idée, parce que il y a quand même toujours cette foi qui vous raccrochait un petit peu à la réalité, on connaît d'ailleurs, en fait, des dizaines de personnes qui se sont perdues, qui ont un peu oublié qui elles étaient, d'où elles venaient, parce qu'elles avaient peut-être pas ça aussi qui les raccrochait à une forme de réalité.
Oui, j'étais très content de ce que je vivais, mais je suis toujours d'un petit village du Pas-de-Calais et le petit-fils de l'ami en poisson. Ça, j'ai jamais été autrement. Et le petit garçon qui lisait à la messe et qui était enfant de cœur, et ça, mais ça, c'est tellement moi, je veux dire, et j'ai eu la chance d'avoir un très très bel article dans le JD News, et il y a une photo de ma communion.
C'est quoi ça?
c'est un journal presque aussi important.
Des concurrents, mais néanmoins
voilà.
Confrères, en tout cas.
Mais il y a une photo de ma communion, et ça m'a fait marrer, parce que, finalement, on est...
Résume le mieux.
Il n'était pas très chrétien, mais Louis Aragon a écrit Nul ne guérit de son enfance. Donc,
En tout cas, Nul ne guérit de son enfance. En tout cas, c'est une très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup, Frédéric Hermel, pour cet ouvrage. C'est ça la foi aux éditions Fayard, et pour être venu à l'antenne de ce Restons Courtois du jeudi 20 novembre. Merci beaucoup. C'est passé extrêmement vite ce moment avec vous.
C'était merveilleux.
Je vous dis à très bientôt et à tout de suite, chers auditeurs. Mais d'abord, un tout petit message de votre radio avant la chronique de Laurent Dandrieu.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Et bonsoir chers auditeurs, vous êtes de retour sur le plateau de Restons Courtois, présenté comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault, je suis avec Laurent Dandrieux, Victor Hérault et Étienne Darjac. Frédéric Hermel vient de nous quitter, nous accueillons le député Charles Rodoel. Bonsoir monsieur le député.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Vous êtes député de la première circonscription des Yvelines, mais avant de vous donner la parole, place à Laurent Dandrieux, parce que Laurent Dandrieux va nous parler aujourd'hui de Charles Trenet.
De Charles Trenet et d'une radio concurrente. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire, cher Marc, ni Frédéric Hermel d'ailleurs, on ne bénira jamais assez le direct. Royaume de l'incontrôlable et de l'imprévu, il est souvent l'occasion de propos spontanés qui révèlent ce qui n'ose pas se dire ouvertement. Et ce 13 novembre, justement, la matinale de France Inter fut l'occasion d'un étrange dialogue. Sonia de Villers, dont la soumission à la conception très particulière qu'a Radio France de la neutralité du service public n'est plus à démontrer, recevait ce jour-là le chanteur Renaud et sa fille et biographe Lolita Séchant. Curieusement, dans les images de l'émission diffusée sur les réseaux sociaux, si Lolita apparaît bien, Renaud lui-même, pourtant présent dans le studio, on n'entendra que la voix. Il est vrai que le talentueux chanteur, dont on connaît la lutte sévère qu'il a dû mener contre l'alcoolisme, ne semblait pas en bien grande forme, si l'on en croyait cette voix épuisée qui semblait un souffle fragile. Alors, outre un retour sur scène, Renaud annonça de nouveaux disques, dont un d'hommage à Brassens et un autre à Charles Trenet. Si l'animatrice salua cette annonce d'un génial, forcément génial, tant elle béait d'admiration devant son invité, on l'a senti déstabilisée par ce dernier projet. « Je ne savais pas que vous admiriez Charles Trenet » et d'ajouter « Ce n'est pas tellement de la chanson de gauche ». Remarque dont Renaud souligna aussitôt le caractère incongru par un définitif, c'est de la poésie pure. Dans le podcast de l'émission, la phrase de Sonia de Villers a été coupée au montage. Vive le direct.
C'est pourtant une vraie question, Laurent Dandrieux. Est-il vraiment raisonnable d'aimer un artiste qui n'est pas de gauche?
Alors on pouvait se le demander à l'écoute de cette matinale de France Inter. Ainsi, sur une radio publique de gauche, une journaliste de gauche recevant un artiste de gauche s'étonna sincèrement qu'il puisse aimer un chanteur qui ne l'était pas. Il est vrai que Charles Trenet fut éhontément récupéré par Jack Lang, qui en fit en quelque sorte le chanteur officiel de la Mitterrandie, et que lui-même se prêta sans réticence à cette récupération par soif de reconnaissance, mais ses chansons, elles, n'ont absolument rien de progressiste. Quand il ne part pas dans une fantaisie intégrale où le soleil a rendez-vous avec la lune et les percepteurs disent « gardez tout, messieurs, gardez tout », on peut toujours rêver, Trenet se fait le chantre d'une France résolument d'avant, une France encore catholique, où la vie se déroule sous le regard du ciel, pleine d'abbés à bicyclette et de demoiselles en robe de taffetas, la France des familles et des charmilles, où la vie s'écoule calme et tranquille, loin de la ville, au rythme des cloches de l'église, jusqu'au jour où elle vous escorte jusqu'à Monsieur Saint-Pierre, qui vous accueille d'un bon sourire. Alors non, Trenet, ça n'est vraiment pas de la chanson de gauche, et on entendait dans la voix de Sonia de Villers le double étonnement qu'un homme de gauche puisse l'apprécier ainsi, mais aussi qu'on puisse avoir du talent sans être progressiste. Ainsi va une certaine gauche qui ne s'intéresse aux artistes que s'ils sont du bon côté.
Ça déplaira sans doute à notre invité macroniste, mais finalement la culture est-elle le dernier refuge du clivage droite-gauche?
Alors j'entends encore le romancier Michel Mort, merveilleux écrivain catholique et monarchiste, s'étonner devant moi à la fin des années 90, avec une fierté désolée que Libération ne lui ait jamais consacré une ligne, et il n'est certes pas le seul dans ce cas, quand les journaux de droite sont emplis d'éloges d'artistes du camp d'en face, et notamment Valeurs Actuelles, à qui, en guise de laisser-passer, on ne demande que du talent. La gauche, en effet, est toujours tentée de faire marcher l'art en ordre serré, de le domestiquer au service de la cause, quand la droite sait qu'il est le contraire de l'embrigadement, qu'il est le culte passionné de la liberté de se découvrir en sa particularité. La gauche le veut célébrant les grandes causes collectives, la droite en fait l'éloge de la singularité, de ce qui est essentiel parce qu'il est unique. Comme le disait un certain Charles Trenet, les poètes disent ce qu'ils veulent, les autres disent ce qu'ils ont appris.
Et on vous encourage, chers auditeurs, mais je suis sûr que cette chronique l'a faite, à réécouter l'œuvre de l'excellent Charles Trenet. Bonsoir Charles Rodoel.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Je tiens à préciser avant de vous donner la parole que les chroniques de Laurent Dandrieux sont évidemment à retrouver toutes les semaines dans Valeurs Actuelles, donc abonnez-vous et surtout achetez Valeurs Actuelles. Vous êtes député.
J'ai trouvé d'ailleurs que cette chronique était particulièrement en forme, je dis engagé, puisque vous m'avez pris à partie, je tiens juste à préciser que je préfère largement écouter Fred Hermel à l'After Foot que Sonia de Villers sur France Inter.
C'est bien, un bon
parce que pour la santé de tout le monde, c'est mieux.
Il y aurait donc un clivage gauche-droite qui ne serait pas cantonné que dans la culture, Charles Rodoel.
Je laisse chacun des éditeurs en juger, notamment après notre interview.
En tout cas, on commence de bonne humeur, mais l'actualité pourtant est un petit peu plus morose. Je voulais vous faire réagir réagir sur cette guerre menée contre le narcotrafic, puisque Laurent Nunez l'a annoncé, la mort de ce jeune homme, Mehdi Kessassi, est un point de bascule. On ne peut pas revenir en arrière. Nous sommes aujourd'hui en guerre contre le narcotrafic. C'est en tout cas la volonté affirmée par l'exécutif, par le gouvernement que vous soutenez. Est-ce que vous partagez cette prise de position du ministre de l'Intérieur ?
En fait, en pensant à ce monsieur, à cette famille, j'ai pensé à la famille de ma circonscription à Guyancourt qui, il y a quelques mois, a subi des tirs de Kalachnikov sur son mur dans un HLM du quartier du Pont du Routoir. Une famille d'origine d'ailleurs immigrée. Et quand je me suis rendu sur place, je me suis rendu compte de la détresse de la population sur place qui a été déstabilisée, qui a été affecté dans sa sécurité jusqu'au plus profond de son intimité, puisque l'une des balles est passée à moins d'un mètre de la tête d'une petite fille qui était en train de faire rien d'autre que ses devoirs d'école, et avec un quartier qui était en proie à une violence absolument terrible pour une seule raison, c'est le trafic de drogue. Mmh. Et donc quand Gérald Darmanin déclare aujourd'hui que le narcotrafic est une menace au moins aussi importante que celle du terrorisme, je le constate en fait factuellement comme des millions de Français tous les jours sur ma circonscription et au moins dans deux des trois villes de ma circonscription.
L'assassinat de ce jeune homme, c'est un acte de narco-terrorisme, enfin de terrorisme tout simplement. Tout à
fait. Je pense qu'il faut juste mettre les mots dessus. Et moi, je vois deux éléments pour répondre. D'abord, un, taper le producteur. Je pense que la mise en place du parquet national de lutte contre le narcotrafic tel que l'on l'a adopté en février dernier à l'Assemblée nationale est fondamentale. C'est une loi qui a été portée par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Mais je crois que si on ne répond que de cette manière, on répond à moitié à côté du problème. Je pense qu'il est temps qu'on tape extrêmement durement les consommateurs et les bourgeois de certains quartiers qui vivent de manière parfaitement paisible et en sécurité et qui, à chaque fois qu'ils prennent une pilule ou tirent sur un joint, mettent des millions de familles en insécurité dans notre pays. Il est temps qu'on les tape extrêmement durement, eux aussi.
Mais on avait un peu le même sujet, le même débat au sujet de la prostitution notamment, mais vous craignez pas que lorsqu'on dit on s'en prend aux consommateurs, ça peut être interprété comme une forme d'impuissance vis-à-vis... Quand on tape le demandeur, est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance vis-à-vis de la lutte contre l'offre, en quelque sorte, Charles Rodouel?
Je pense qu'il faut faire les deux. Mmh. C'est-à-dire que taper juste le demandeur, ce serait aussi répondre uniquement à côté du problème. Mmh. Je pense que le crime organisé à la fois par des Français, mais aussi par des étrangers qui... agissent impunément sur notre sol et qui mettent des millions de familles en insécurité doivent être abattus à la fois par une politique de sécurité et une politique d'incarcération la plus dure possible. Mais je crois qu'on serait hypocrite de ne traiter que le problème par l'offre en laissant tranquillement les consommateurs de côté, sachant qu'eux ne sont jamais mis en insécurité là où ils vivent et que ce sont eux aussi qui mettent des millions de familles en insécurité dans ce pays. Donc il faut taper les deux. Il y a des pays d'ailleurs qui l'ont fait. Et donc, je ne vois pas pourquoi la France ne pourrait pas le faire, elle aussi.
Mais la question qu'on peut se poser, Charles Rodouel, après je laisserai la parole à mes invités qui auront certainement des questions à vous poser. Mais en fait, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous parlez donc de ce quartier du Billancourt. Moi, je peux vous citer, par exemple, ce quartier de Rieux-la-Pape, dans lequel a été tourné un clip de rap qui a dégénéré puisqu'un immeuble a pris feu. On a vu le déplacement de Vincent Jeanbrun, le ministre de la Ville, avec Alexandre Vincent Day, ancien député Horizon. Mais vous voyez, ce quartier, par exemple, on a investi 400 millions d'euros dedans en 10 ans. On prend Romans-sur-Isère, le quartier de la Monnaie. La maire Marie-Hélène Toraval l'a dit, pareil, une somme équivalente qui est entre 400 et 500 millions d'euros, au détriment évidemment de zones rurales, parce qu'on parle de la misère de ces quartiers, la misère elle est aussi dans les villages du Cher, de Saône-et-Loire ou que sais-je encore. Finalement, qu'est-ce qui marche? On a investi des centaines de millions dans ces quartiers, des milliards d'ailleurs à l'échelle nationale. Le plan Borloo, pour rappel, c'est entre 50 et 60 milliards d'euros. Finalement, on a vidé les caisses pour rien, en quelque sorte, puisque ça n'a pas empêché ce narcotrafic de prospérer.
En fait, je dirais pas pour rien, parce que ce combat, il est mené tous les jours par des hommes et par des femmes qui mettent leur vie en danger pour notre sécurité et qui se battent comme ils peuvent. En fait, je pense tout simplement qu'on n'a pas pris le problème à son échelle. C'est comme avec le terrorisme. Jusqu'en 2015-2016, on vient de fêter les 10 ans du 13 novembre 2015 les horribles assassinats du Bataclan. On n'avait absolument pas pris la question de la menace terroriste à son échelle. Et après ces horreurs, a été mis en place le parquet national antiterroriste. Nous avons voté près de 10 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour nos services de renseignement et pour nos services dédiés à la lutte contre le terrorisme. Et on voit aujourd'hui que la dimension terroriste a été réduite sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on l'a supprimée. faut juste voir d'ailleurs l'attaque de l'île de Léron il y a quelques jours. On voit d'ailleurs que la menace terroriste a muté, c'est-à-dire que on a moins d'attaques très organisées sur des points multiples au même moment. On a plus des actes isolés, mais qui peuvent être tout aussi mortifères, mais on a su reprendre la main sur le combat contre le terrorisme. Et on voit aujourd'hui qu'on n'a pas encore la main sur le combat contre le narcotrafic, parce que je crois, et à mon honorable aussi, faut bien constater que ce n'est pas un de nos succès depuis ces dernières années, qu'on n'avait pas pris au juste niveau la menace que constitue le narcotrafic pour le territoire français.
Et du
quand Bruno Retailleau parle de mexicanisation du territoire français, et quand vous avez trois semaines après un projet de loi qui est déposé à l'Assemblée nationale par le duo Retailleau-Darmanin pour mettre en place le parquet national contre le narcotrafic, là on voit qu'on a des premières mesures pour prendre le sujet à son échelle. Mais je persiste dans le message que je veux passer et dans le soutien que j'apporterai à la juste politique à l'Assemblée nationale. Si on tape le producteur, il faut absolument qu'on le fasse. Il faut aussi taper le consommateur parce que sinon nous ne répondons qu'à la moitié du problème.
Alors là, on a eu la mort donc de Mehdi Kessassi. Quand on parle de point de bascule, maintenant la crainte de la part des pouvoirs publics, c'est que après cet assassinat, il en survienne d'autres, mais qui visent cette fois des magistrats, des élus, des hauts fonctionnaires, des ministres. On pourrait en venir à cela pour vous, Charles Ordouel?
Je pense qu'on y est déjà. C'est-à-dire, moi, je suis pas venu pour modérer. Juste pour dire la réalité, je vois des élus, des maires, qui sont élus par les Français, qui sont déjà sous la menace de...
Et certains sont condamnés pour corruption, pour déjà, comme complicité le disait, avec les narcos.
Gérald Darmanin le dit lui-même, il y a déjà des magistrats dont les enfants vivent sous protection policière 24 heures sur 24 parce qu'ils osent s'attaquer au sujet du narcotrafic. Je dirais même que le niveau de corruption au sein de l'État est arrivé à un point... On n'imaginait pas il y a quelques années, quand on voit que des avocats mettent exprès des vices de procédure dans les procédures qui sont intentées contre des barons de la drogue. Quand on voit la manière dont se sont bâtis ces réseaux à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale, on constate bien qu'on fait face à un ennemi qui est extrêmement puissant. La seule chose que je peux dire à vos auditeurs et à vos téléspectateurs, c'est qu'il y a des pays qui ont su reprendre la main. Soit partiellement, soit totalement.
Le Salvador de Nayib Bukele, notamment.
Moi, je veux vous dire, le modèle qu'a mis en œuvre Nayib Bukele, on n'est pas dans un état de droit et une démocratie comme
alors
la France.
Alors, il partait de beaucoup plus loin que nous aussi.
Je dois dire simplement, c'est que si on enferme quelques centaines ou quelques milliers de personnes pour protéger une population de plusieurs millions d'habitants, il y a une politique carcérale qu'il faut regarder pour pouvoir s'en inspirer pour le territoire français. Quand je vois Gérald Darmanin qui met en place... enfin, des quartiers à très haute sécurité pour isoler totalement ces barons de la drogue. Je prends par exemple la DZ Mafia. Pourquoi est-ce que je parle de la DZ Mafia? Parce que la DZ Mafia qui vient de Marseille avait une influence directe sur le territoire de ma circonscription, dans les Yvelines, à des centaines de kilomètres.
Et là, en Belgique,
et
déjà,
maintenant. Exactement. Quand on constate que sur les 30 patrons de la DZ Mafia, il y en a 27 qui sont désormais en prison et que d'ici à quelques semaines, ils seront à l'isolement total... Je ne vais pas dire du jour au lendemain qu'on va démanteler la DZ de mafia. Je veux dire simplement qu'on a pris le problème à une échelle tout autre qu'il y a quelques mois.
Mais pardon, Charles, c'est vrai dans le bon mais sens. Quand on voit justement que... Après, je vous laisse la parole, cher chroniqueur, mais quand on voit que Charles Rodeau... Que Charles Rodel, que le patron de la DZ de mafia a réussi
c'est
à...
C'est pas moi.
Quand on voit que le patron de la DZ de mafia a réussi à commanditer visiblement l'assassinat de Mehdi Kessassi depuis sa cellule, est-ce qu'on n'a pas été d'une naïveté totale? Là, on a certes, ils sont en prison, mais en tout cas, ça ne les empêche pas de commanditer des assassinats.
Vous savez, on paye quand même, vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui très bien, et vous le reliez parfaitement aussi, l'état du débat politique, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale sur ces questions, où pendant des décennies, on a cautionné une forme de droit aux prisonniers, avec finalement un sentiment que les prisonniers étaient des victimes comme les autres et qu'il fallait les prendre d'abord sous l'angle victimaire avant de les prendre sous l'angle de la culpabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun criminel n'a une vie difficile avant de passer à l'acte. Je dis simplement qu'on devrait mieux s'inspirer et partir du fait qu'ils sont d'abord et avant tout coupables et qu'une politique de répression est nécessaire avant la politique de l'excuse. Et je crois que les tabous que nous avons brisés, il ne serait-ce qu'il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale sur la loi narcotrafic, et je crois de bon ton et porteuse d'espoir par rapport à toute la politique qui a été cautionnée depuis des années, droite, gauche, centre confondu, parce que depuis 40 ans, vous avez eu à peu près tous les partis du gouvernement au pouvoir qui n'ont pas inversé cette tendance.
Mais c'est vrai qu'on, quand on vous écoute, on a envie de vous croire, mais quand on voit par exemple que Dominique Simonneau, qui a été nommée en septembre 2020 contre le général des prisons, enfin, elle a été nommée donc par Emmanuel Macron au milieu de son premier quinquennat, elle est toujours en poste, et Dominique Simonneau, dès qu'elle va dans les médias, c'est pour dénoncer les conditions scandaleuses des détenus, c'est toujours parler des mauvaises conditions de détention, c'est parler de la culture de l'excuse, de la culture de l'excuse. Enfin, vous voyez, il y a un message toujours très idéologique derrière pour un poste qui devrait être purement objectif et normatif.
Vous savez la raison pour laquelle je lis beaucoup ce que dit Madame Simonneau, je ne suis pas toujours d'accord. Il y a une prison pour femmes sur ma circonscription, une maison d'arrêt. Et quand les cellules sont faites pour des personnes de 5 à 6 personnes.
À Bois d'Arcy, je crois.
Non, Versailles.
Versailles.
Et vous avez aussi une prison à Bois d'Arcy, effectivement. Et dans les cellules, vous avez parfois jusqu'à 12 personnes. Je ne suis pas en train de dire que les prisonniers doivent être pris uniquement sous l'angle victimaire, mais simplement quand vous mettez 12 personnes dans une cellule prévue pour 6, vous imaginez bien que quand on sort de prison, on n'est pas forcément dans un état qui est meilleur que quand on y est rentré. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut mener une politique carcérale telle qu'elle est enfin menée aujourd'hui, où on construit, on construit, on construit, on construit, pas seulement pour le bien des prisonniers, mais aussi pour le bien de la société, afin que les gens qu'on relâche soient relâchés après avoir purgé une peine et enfin être remis sur de bons rails, et non pas dans un état qui est pire et encore plus délétère que lorsqu'on les a enfermés en premier lieu.
On va passer aux suggestions. Dernière question sur ce sujet. Il y a quand même un impensé, mais c'est un peu l'impensé de la Macronie, enfin d'une grande partie de la Macronie depuis 2017, quel que soit le sujet, et il se trouve qu'il est particulièrement prégnant sur ce sujet du narco-banditisme, c'est le poids de l'immigration.
Charles Rodoil est l'un des seuls députés, justement c'est la question que je voulais vous poser.
Ah bah, Victor Hérault, je vous la laisse, allez-y.
Non, mais effectivement, vous êtes, si nos auditeurs ne sont pas au courant, l'un des seuls représentants de la Macronie à tisser clairement ce lien entre insécurité et immigration. Ma question qui est double, un, expliquez-nous votre raisonnement qui vous mène jusqu'à ce constat, et deux, comment expliquez-vous soit que vous restiez dans cette formation politique qui le nie globalement, soit pourquoi est-ce que eux le nient, pourquoi cette entente, comment est-ce que vous évoluez dans un milieu où on refuse de faire ce
lien. Et du coup, puisque Victor Hérault m'a piqué ma question, je vais la compléter. En octobre 2022, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y avait pas de lien existentiel entre l'insécurité et l'immigration. C'est juste, voilà, il y a des exemples concrets qui montrent que dans votre camp politique, en tout cas, c'est une association qui est très difficile intellectuellement à faire, visiblement.
Alors aujourd'hui, il l'a faite, je crois que c'est heureux parce que je considère que pour ne pas voir le lien entre l'insécurité et l'immigration, il faudrait tout simplement être aveugle. Quand on voit rien que les chiffres sur notre région, la région Île-de-France, les transports, la population carcérale et autres, il faut juste faire un constat assez simple, c'est que tous les immigrés ne sont pas évidemment des délinquants, mais il y a un lien qui est évident entre l'immigration et l'insécurité. Moi, je veux dire très franchement, la raison pour laquelle je suis extrêmement à l'aise dans ce courant politique, c'est que je suis très fier de la politique européenne et de la politique économique, y compris en temps de crise, qu'on a menée. On peut ne pas être d'accord sur cette question, mais moi je suis éminemment pro-européen, notamment dans un monde où on subit une confrontation entre deux hyperpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Je considère que la France est puissante lorsqu'elle est puissante en Europe, et c'est la raison pour laquelle je soutiens la politique du président. Et la deuxième raison, c'est que moi je crois qu'on ne peut plus faire moment la politique de l'offre que nous avons menée. Simplement, si on a perdu les élections législatives en 2024, on les a perdues lourdement. Mais c'est bien quand même qu'on a échoué sur une partie de notre bilan.
Oui.
Et moi, je suis convaincu que le sujet sur lequel nous avons échoué, c'est les questions identitaires et c'est les questions migratoires. Ce sont des questions qu'on a laissées à l'extrême gauche et au Rassemblement national. Et moi, à la fois pour mon pays, mais aussi pour la survie de ma formation politique, je considère que la question de l'identité nationale et de l'immigration doit être placée au cœur de notre projet politique, sur un projet précis. Il faut qu'on mette enfin en œuvre une politique d'immigration massivement réduite et choisie, fondée uniquement sur le travail, pour répondre aux besoins de la nation. Ça veut dire qu'il faut assumer deux choix politiques clairs. Premier choix politique, assumer de mener une politique d'immigration massivement réduite, mais travail, négocier notamment avec les pays de transit. Je me suis rendu il y a quelques semaines au Maroc et en Tunisie, ces pays ne demandent que ça. Deuxième des choses, il faut qu'on assume d'assécher toutes les autres voies d'immigration. C'est la raison pour laquelle j'ai rendu ces propositions publiques. Je souhaite qu'on mette en œuvre un moratoire sur le regroupement familial pour en redéfinir les règles. Je souhaite que nous mettions fin à l'immigration pour soins. Pas seulement l'immigration pour soins, ce n'est pas la question de l'AME, c'est notamment la question de la PUMA et la question des visas étrangers pour soins. Je souhaite que nous redéfinissions complètement le droit d'asile afin que le droit d'asile soit un vrai droit d'asile et non pas un aspirateur à immigration irrégulière. Et enfin, je souhaite que nous dénoncions les accords préférentiels, notamment l'accord entre la France et l'Algérie de 1968, à une condition majeure, c'est que nous définissions un cadre juridique alternatif afin d'éviter de laisser un vide juridique mortifère telle que la résolution du Rassemblement National
le proposait. Charles Rondel, mais du coup, à ce moment-là, ces positions que vous défendez, elles sont minoritaires au sein de votre camp.
Ah bon?
Elles sont, bah, en tout cas, c'est tout à fait l'impression que ça donne. À ce moment-là, enfin, c'est peut-être que vous militez pas dans la bonne formation politique, en fait.
Moi, j'ai écouté la convention que le président de notre groupe et le président de notre parti, Gabriel Attal, a prononcée en juin dernier. Dans cette convention sur la politique régalienne qui était apportée pour les prochains mois et les prochaines années, il est acté que nous voulons un moratoire sur le regroupement familial, il est acté que nous voulons revoir totalement notre politique d'immigration pour soins, il est acté que nous voulons réduire l'immigration, et donc j'estime que sur ces questions, il y a un virage idéologique qui est bienvenu, et que la question identitaire et la question régalienne et que la question migratoire est enfin de retour au cœur du projet politique de notre parti.
Ça fait presque 9 ans, Charles Rodwell. Gabriel Attal, il était Premier ministre, il a été ministre, et c'est un soutien de la première heure du président de la République, vous aussi. Enfin, 9 ans après, on a l'impression qu'on se réveille et que finalement, on dit, ah bah finalement, peut-être que les Républicains, peut-être que le Rassemblement National Reconquête, en fait, n'ont pas tort.
Bah, moi, j'ai deux choses à vous dire là-dessus. Un, il n'y a pas que l'immigration dans la vie, même si c'est mon obsession, en tout cas, dans le travail que je mène à l'Assemblée nationale.
On peut parler du bilan économique, si vous voulez. Hein,
je vous ai donné les deux raisons pour lesquelles je suis, pour le coup, je ne me sens pas autant à l'aise qu'aujourd'hui dans la formation politique dans laquelle je suis, notamment quand je vois les débats à l'Assemblée nationale, où si la fiscalité a explosé, c'est avant tout parce que le Rassemblement national s'est allié à la gauche pour faire exploser la facture fiscale de 36 milliards d'euros. Là, je peux vous dire que s'il y a bien une chose sur laquelle je suis à l'aise, c'est de ne pas siéger dans le groupe du Rassemblement national. La deuxième des choses, c'est que vous avez parfaitement le droit, en tant que femme politique, de faire un constat d'échec sur une partie de votre politique. Même, je considère que c'est assez sain. Une fois que vous avez été 8 ans au pouvoir, vous pouvez faire la liste de ce sur quoi vous avez réussi et la liste de ce sur quoi vous avez échoué. Mais quand on regarde les sondages et quand on interroge n'importe qui dans la rue, qu'il soit de droite ou de gauche, on peut bien considérer que notre politique migratoire est un échec. Et donc moi j'ai le choix. Soit je considère simplement que c'est un échec et que je ferme le banc, soit, à titre très personnel, je fais un travail, j'ai créé un think tank pour ça, ensemble français, j'ai interrogé de multiples personnes et j'essaie de réfléchir sur la politique migratoire qu'il faut mener pour mon pays. Moi je ne soutiens pas la politique migratoire du RN, je la respecte mais je ne la soutiens pas, je peux vous en donner
une
raison.
Sur quel point par exemple?
Bah, je vous prends. Charles Rodwell. Je voudrais pas être trop long, mais c'est un sujet sur lequel je peux être très bavard, donc vous m'interrompez si vous le souhaitez.
Pas de souci.
Pour moi, dans le programme migratoire du RN, il y aura un cocu. Parce que le RN vous dit qu'on peut à la fois réduire le temps de travail et réduire l'immigration. Il vous dit qu'on peut revenir à 62 ans, voire à 60 ans, on comprend jamais trop le programme économique. On vous dit qu'on peut revenir facilement aux 35 heures. Et surtout pas accroître le temps de travail. Et en même temps, on vous dit qu'on peut réduire l'immigration.
En tout cas, on peut dire qu'on peut abroger une réforme des retraites qui, de l'aveu même de Gabriel Attal, était obsolète avant même qu'elle soit votée.
Je comprends que vous prenez la défense du programme.
Non, je ne défends rien du tout. C'est la cohérence de Gabriel Attal, par exemple.
Je vous dis juste
Gabriel Attal, et après je vous laisse la parole.
Vous attaquez Gabriel Attal.
Non, pas du tout.
Je comprends que ce soit un jeu ici.
Non, mais je comprends que vous parliez de la réforme des retraites parce que c'est tout à fait cohérent. Non, pas du tout. Je vais juste vous expliquer ce qu'a dit Gabriel. Gabriel Attal a dit que c'était même plus une question de paramètres, c'était une question de système à changer.
Oui.
C'est-à-dire
qu'il veut la capitalisation. Et le RN est contre la capitalisation.
Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Je ne vous dénie pas le fait que vous ayez que vous soyez en désaccord avec le RN. Enfin, vous avez parfaitement le droit.
Donc, je finis sur ce point-là. Vous ne pouvez pas.
Je veux bien vous répondiez sur la réforme des retraites et la capitalisation aussi.
Je répondrai après avec grand plaisir. On ne peut pas, dans l'état démographique de notre pays, réduire le temps de travail et réduire l'immigration. Ça ne marche pas. La gauche, au moins, elle est cohérente sur ce sujet. Elle dit « je veux réduire le temps de travail, 60 ans, 32 heures, et je veux faire exploser les flux migratoires pour compenser la société de loisirs pour les Français ». Moi, je considère que c'est mortifère pour notre civilisation, mais je ne vois pas d'autre solution que de dire aux Français « il faut que tous les Français travaillent ». Donc, on mène la politique, la réforme de l'assurance chômage contre laquelle le RN se prononce. Il faut accroître le temps de travail dans la vie et donc prendre des décisions difficiles sur les retraites. Je reviendrai à votre question. Mais c'est la seule condition pour réduire l'immigration. Le RN fera un cocu dans cette affaire. La deuxième des choses, on peut avoir un désaccord sur cette question. Quel est le principal vecteur de l'immigration au XXIe siècle? C'est le changement climatique. Donc, si vous voulez réduire l'immigration à l'échelle mondiale, notamment d'Afrique vers l'Europe, vous n'avez pas d'autre choix que de lutter contre le changement climatique. Et ce que je constate, c'est que toute la politique climatique que nous menons à l'Assemblée nationale, c'est les crédits que nous avons votés la semaine dernière, ont été rejetés par le RN. Troisième point.
Donc vous soutenez les ZFE, par exemple ?
Le ZFE, c'est peut-être un dispositif qui est imparfait, mais sur ma circonscription, ça a permis de faire baisser les taux de pollution de 15% sur les grands axes. Donc, massacrer les ZFE du jour au lendemain, Je tiens à alerter notamment les gens qui habitent en zone urbaine, et c'est un gros sujet, c'est une grosse problématique que nous avons. Mais les ZFE, c'est terrible d'un point de vue social, il faut qu'on y trouve des solutions. Mais supprimer du jour au lendemain les ZFE, honnêtement, je demande à voir, notamment dans les circonscriptions, des députés qui se prononcent ouvertement contre. Troisième sujet, le pacte asile, le pacte européen, asile-immigration. Le RN est vent debout contre. Moi, je leur pose une question. Pourquoi est-ce que Mélanie est pour ? Pourquoi est-ce qu'elle est pour ? Moi, je veux le dire, une explication très simple parmi eux. Je me suis rendu en Tunisie. Grâce au pacte européen asile-immigration, le nombre d'immigrés illégaux qui est passé de Tunisie en Europe, c'était 100 000 en 2023, 16 000 en 2024. C'est une baisse de l'immigration illégale de Tunisie vers l'Europe de 84%, notamment grâce à ce pacte. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un parti qui vous dit « Je suis contre le pacte asile-immigration à l'échelle européenne » et qui vous dit en même temps « Je vais réduire l'immigration ». Donc voilà trois points que je vous ai donnés, très concrets, sur lesquels je suis en opposition radicale avec le RN, parce qu'avec le programme en l'état actuel, ils ne réduiront pas l'immigration en France. Ils ont beau le dire jour et nuit sur les plateaux de télévision, quand vous regardez concrètement le programme aujourd'hui du Rassemblement National, il ne réduira pas l'immigration, il la fera exploser. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays.
Oui, Charles Rodouel, à vous écouter, et je connais bien, vous le savez, vos positions, la Macronie, c'est la politique de l'offre. Désormais, très récemment, par la proposition de Gabriel Attal, une retraite avec une forte part de capitalisation.
Tout à fait.
Vous le dites, une lutte contre, en tous les cas, vous le revendiquez, contre l'immigration, pour plus de sécurité. La Macronie est-elle un parti de droite aujourd'hui ? Et si oui, où est partie l'aile gauche ?
Bah, en fait, vous voyez, moi, la raison pour laquelle j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire la gauche et la droite, c'est que j'entends Marine Le Pen qui dit qu'elle n'est pas de droite et pas de gauche. J'entends les LR qui disent qu'ils sont de droite, mais qui ont refusé de voter la réforme des retraites de 2023. J'entends Manuel Valls qui dit qu'il est de gauche, mais qui dit en même temps qu'il est pour l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans. J'entends Édouard Philippe qui dit qu'il est de droite, mais qui n'est pas d'accord avec Manuel Valls sur cette question. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre sur quelle base on pose
le clivage
entre
gauche... J'entends le groupe Renaissance qui est pour, qui s'abstient sur la suspension de la réforme des retraites aussi.
Mais la raison... Moi, j'ai voté contre.
Absolument. Non, mais vous avez cette cohérence. Non, mais
la raison pour laquelle on a posé cette question, c'est que Gabriel Attal dit que la répartition, le régime par répartition, tel qu'il existe, n'est plus le sujet. Le seul moyen de sauver la retraite des Français, c'est la capitalisation.
Mais pourquoi s'est accroché à cette réforme alors, Charles Rodouel ?
Mais la grande hypocrisie dans toute cette affaire, c'est que si on maintient le régime par répartition, ce sont les pauvres de ce pays qui vont en baver. Parce que tous les riches, tous les cadres d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, tous les patrons de fonds d'investissement ont déjà la capitalisation aujourd'hui. Le meilleur moyen de sauver la retraite des Français, c'est la capitalisation et c'est la proposition que nous faisons.
Alors Laurent Drouillet, si votre question dure 5 secondes et que la réponse de Charles Rodouel dure 5 secondes.
Si effectivement la répartition est un système condamné à l'échec, pourquoi avoir braqué le pays en s'obstinant sur cette réforme des retraites qui ne résolvait rien ?
En fait, vous croyez que ça me fait plaisir de voter contre la suspension ? Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir de voter pour la retraite à 64 ans ? Que j'en tire ? La vérité, c'est que nous n'avons pas d'autre choix que de rééquilibrer le compte pour les retraites. Et moi, je considère que le RN et la gauche, en votant main dans la main depuis des années sur cette question, sont coupables parce que dans l'antichambre du Parlement, ils savent très bien qu'ils sont en train d'envoyer les retraites dans le mur, notamment pour les milliers de Français les plus modestes. C'est un choix que je refuse, même s'il me rend populaire.
C'était le mot de la fin. Merci Charles Rodouel d'avoir accepté notre invitation. Merci à Étienne Darjac, Victor Hérault et Laurent Dondriot d'avoir été avec nous sur ce Restons Courtois du jeudi 20 novembre. Je vous retrouve comme tous les jeudis, le prochain jeudi, le 27 novembre. Chers auditeurs, à très bientôt.
Ça suffit maintenant.